Chapitre 6. Olympos.
Lorsque s'achève mon service, en ce soir qui a vu l'affrontement d'Achille et d'Agamemnon, je regagne le complexe scoliaste d'Olympos par téléportation quantique, j'enregistre mes observations et mes analyses, et je transfère mes pensées sur un logopètre que j'apporte dans la petite salle blanche de la Muse donnant sur le lac de la Caldeira. À ma grande surprise, la Muse s'y trouve, occupée à discuter avec un autre scoliaste. Il s'agit de Nathan Hessler, un type aimable au physique d'ours qui, ainsi que je l'ai appris au fil des 4 années écoulées depuis son arrivée, a vécu et enseigné et est mort dans le Middle West au début du XXe siècle. En me voyant sur le seuil, la Muse le congédie après avoir conclu leur conversation et il franchit la porte de bronze donnant sur l'escalator qui descend en spirale vers le pied d'Olympos, nos baraquements et le monde rouge qui s'étend autour de nous. La Muse me fait signe d'approcher. Je pose le logopètre sur la table de marbre devant elle et recule d'un pas, m'attendant à être congédié en silence, ainsi qu'il en va d'ordinaire. De sorte que je suis fort surpris de la voir saisir le logopètre en ma présence, l'enserrer dans sa main et fermer les yeux pour se concentrer. J'attends la suite. Je suis un peu inquiet, je le confesse. Mon cœur bat la chamade et mes mains, jointes au creux de mes reins dans une position évoquant celle d'un soldat au repos, version professorale, sont franchement moites. Il y a des années de cela, j'ai décidé que les dieux n'avaient pas le pouvoir de lire dans les pensées des mortels, que s'ils semblaient les percevoir, celles des héros comme celles des scoliastes, c'était grâce à des techniques avancées leur permettant d'interpréter les mouvements des yeux et des muscles faciaux. Mais je peux me tromper. Peut-être sont-ils télépathes. Dans ce cas, et à condition qu'ils aient pris la peine de lire dans mon esprit lors de l'épiphanie que j'ai connue sur la plage, juste après la grande scène opposant Agamemnon à Achille, je suis un homme mort. Encore. Certains scoliastes déplaisent à la Muse, ainsi parfois qu'aux dieux plus importants. Il y a quelques années, pendant la 5e année du siège en fait, il y avait parmi nous un lettré originaire du 26e siècle, un asiatique potelé et irrévérencieux affublé de l'étrange nom de Brewster Lynn, et bien qu'il fût le plus brillant et le plus intelligent d'entre nous, il a été défait par son irrévérence. Littéralement. Il venait de prononcer son commentaire le plus ironique, inspiré par le combat singulier entre Paris et Ménélas, qui aurait dû régler le problème d'Hélène et mettre fin, une bonne fois pour toutes, à la guerre de Troie. Sauf que cette lutte à mort entre l'amant troyen et l'époux achéen de la belle Hélène, qu'Homère décrit se déroulant devant les deux armées en délire avec un Paris resplendissant dans son armure d'or et un Ménélas redoutable à l'œil plein de résolution, n'a pas eu de conclusion. Voyant que son cher Paris allait se faire transformer en chair à pâté, Aphrodite est descendue des cieux pour l'emporter loin du champ de bataille, plus précisément dans le lit d'Hélène, un champ clos où Paris était nettement plus à son affaire, à l'image des libéraux efféminés de toutes les époques de l'histoire. Et c'est après que Brewster Lynn se fut gaussé de cet épisode que la Muse, pas amusée du tout, d'autant plus que le dit épisode était encore à venir, a claqué des doigts, et les milliards et les billions de nanocytes obéissants, œuvrant dans le corps du malheureux scoliaste, ont jailli de celui-ci comme autant de lemmings, transformant sous nos yeux Brewster Lynn en une centaine de morceaux sanguinolents et en voyant rouler sa tête toujours souriante vers nos pieds de soldats paralysés en position de garde à vous. C'était une leçon des plus importantes et nous l'avons tous retenue. Les faits sont sacrés, les commentaires sont interdits. Défense de se moquer des loisirs des dieux. Le salaire de l'ironie, c'est la mort. La Muse ouvre les yeux et les pose sur moi. « Hockenberry !» dit-elle, et le ton de sa voix me rappelle celui d'un bureaucrate de mon époque sur le point de licencier un cadre moyen. « Depuis combien de temps es-tu parmi nous ?» Je sais que cette question relève de la pure rhétorique, mais lorsqu'on a affaire à une déesse, même mineure, on répond même à des questions de ce type. « 9 ans, 2 mois et 18 jours, déesse. » Elle opine. Je suis le plus ancien des scoliastes. Ou plutôt celui qui a survécu le plus longtemps. elle le sait. Cette reconnaissance officielle de ma longévité est peut-être mon éloge funèbre, prélude à mon trépas par nanolyse. Comme je l'enseignais à mes étudiants, il existe 9 muses, toutes filles de Mnémosyne. Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polymnie, Uranie et Calliope, dont chacune s'est vue attribuer par la tradition grecque le contrôle d'une forme d'expression artistique, comme la musique, la danse, l'art lyrique ou la poésie épique. Mais en 9 ans, 2 mois et 18 jours passés au service des dieux en tant qu'observateur sur la plaine d'Ilium, je n'ai vu, entendu et obéi qu'à une seule muse, cette gigantesque déesse assise en face de moi derrière sa table de marbre. Vu sa voix stridente, j'ai tendance à l'appeler Calliope dans mon fort intérieur, bien que le nom de la muse de l'éloquence signifie « celle qui a une belle voix ». La voix de ma muse fait penser à un klaxon, mais j'ai appris à bondir quand elle me dit « saute ». « Suis-moi » dit-elle en se levant souplement pour se diriger vers la porte donnant sur ses appartements privés. Je bondis. La muse a un corps de déesse. Elle mesure plus de 2 mètres de haut, mais elle est parfaitement proportionnée. Moins voluptueuse que certaines locataires du Panthéon, bâtie un peu comme une triathlète du XXe siècle. Et en dépit de la faible gravité régnant sur Olympos, je dois presser le pas pour rester à son niveau tandis qu'elle foule les pelouses vertes soigneusement entretenues qui séparent les édifices blancs. Elle s'arrête devant un parc à chars. Je dis char, et ce véhicule ressemble en effet à un char. Plutôt bas, en forme de fer à cheval, il est pourvu d'une ouverture sur le côté, mais on ne lui voit ni chevaux, ni rênes, ni conducteur. Elle agrippe la rambarde et me fait signe de monter. Craintif, le cœur battant à tout rompre, je monte et me tiens en retrait tandis que la muse pianote de ses longs doigts sur une manette dorée qui est sans doute une console de commande. Des voyants clignotent, le char bourdonne, crépite, se retrouve ceint d'un maillage d'énergie et s'élève en tournoyant au-dessus de l'herbe. Soudain apparaissent 2 chevaux, des hologrammes qui se lancent au galop, semblant tracter le char dans les cieux. Je sais qu'ils ne sont là que pour le bénéfice des Grecs et des Troyens, mais je ne peux chasser l'impression d'avoir affaire à de vrais animaux tirant un vrai char. Je me cramponne à la rambarde métallique, mais je ne ressens aucune poussée alors même que le disque de transport oscille de droite à gauche, fait un saut de puce au-dessus du modeste temple de la muse, puis prend de la vitesse pour filer vers cette profonde dépression qu'est le lac de la Caldeira. À moi, von Daniken, lançais-je mentalement, succombant aux effets conjugués de la fatigue et de l'excès d'adrénaline. J'ai vu des chars comme celui-ci un bon millier de fois, à proximité d'Olympos ou au-dessus de la plaine d'Ilium, signe que les dieux vaquaient à leurs divines occupations, mais je les ai toujours vus depuis le sol. Les chevaux paraissent moins réels et le char proprement dit moins solide quand on vole 300 mètres au-dessus du sommet d'une montagne, enfin d'un volcan, qui atteint une altitude de 26 000 mètres. Au sommet d'Olympos, l'atmosphère devrait être absente et la glace omniprésente, mais l'air ici est aussi dense et respirable qu'au pied des falaises volcaniques, là où se nichent nos baraquements, et en guise de glace, le vaste sommet est couvert d'herbes, d'arbres et d'édifices blancs si titanesques qu'en comparaison l'acropole ressemble à un appentis. Le lac de la Caldeira, qui dessine un 8 au centre du sommet, fait presque 100 km de large. Et nous le survolons à une vitesse quasi supersonique, protégé du vent comme du vacarme par quelques champs de force d'instigation divine. Il est entouré par des centaines de bâtiments, chacun flanqué de plusieurs hectares de parcs et de pelouses, sans doute les demeures des dieux, et ses eaux bleues sont sillonnées de grandes autotrirèmes. Brösterlin m'a dit un jour que l'assiette d'Olympos avait une surface équivalente à celle de l'Arizona, son sommet herbu occupant quant à lui celle du Rhode Island. Comme il était étrange d'entendre comparer ce lieu à des lieux d'un autre monde, d'un autre temps, d'une autre existence. Agrippé des 2 mains à la frêle rambarde, je jette un coup d'œil par-delà le sommet. La vue est à couper le souffle. Notre altitude est suffisamment élevée pour que je distingue la courbure du monde. Au nord-ouest, le grand océan bleu s'étend vers la coupe inversée de l'horizon. Au nord-est, c'est la côte qui se déroule, et en dépit de la distance qui nous en sépare, je m'imagine voir les grandes têtes de pierre qui marquent la limite entre la terre et l'eau. Au nord se trouve l'archipel sans nom en forme de faux que l'on aperçoit depuis la plage, près de nos baraquements, et derrière lui une feuille de bleu qui s'étale jusqu'au pôle. Au sud-est, j'entrevois trois autres sommets volcaniques se dressant au-dessus de l'horizon, certes moins élevés qu'Olympos, mais blanchis par la neige car le climat n'y est pas contrôlé. L'un d'eux est sans doute le mont Hélicon, résidence de ma muse et de ses sœurs, si tant est qu'elle en est. Au sud et au sud-ouest, sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres, je distingue une succession de champs cultivés, puis une forêt sauvage et un désert rouge auquel succède ce qui ressemble à une autre forêt jusqu'à ce que la terre se mêle aux nuages et à la brume, réduisant à néant mon acuité visuelle. La muse fait virer notre char pour descendre vers la rive occidentale du lac de la Caldeira. Je constate que les taches blanches que j'avais remarquées lors de notre traversée sont de gigantesques bâtiments blancs aux façades ornées de marches et de colonnades, avec frontons et statues assorties. Aucun scoliaste, j'en suis persuadé, n'a vu cette partie d'Olympos. Du moins, aucun n'a survécu assez longtemps pour en parler aux collègues. Nous nous dirigeons vers le plus vaste des bâtiments. Le char touche terre et les chevaux holographiques s'évanouissent. Des centaines de chars célestes sont parqués sur l'herbe, un peu n'importe comment. La muse prend dans les plis de sa robe quelque chose ressemblant à un petit médaillon. « Hockenberry, j'ai ordre de te conduire en un lieu où tu ne peux aller. L'un des dieux m'a enjoint de te donner deux objets grâce auxquels tu ne seras pas écrasé comme un insecte si ta présence est détectée. Prends ceci. » Elle me tend le médaillon, ainsi qu'un objet ressemblant à une cagoule en cuir travaillé. Quoique petit, le médaillon est assez lourd, comme s'il était en or massif. La muse en fait pivoter une partie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
« Ceci est un téléporteur quantique personnel similaire à ceux qu'utilisent les dieux, » dit-elle à voix basse. « Il peut te conduire dans tout endroit que tu parviens à visualiser. En outre, ce disque TQ te permet de suivre le sillage quantique des dieux lorsqu'ils transitent par l'espace de Planck, mais nul, excepté la déesse qui m'a donné ceci, ne pourra te suivre à la trace. Est-ce que tu as compris ?»«
Oui, »
dis-je d'une voix tremblante.
« Je ne veux pas de cette chose. Elle signifie ma mort. L'autre cadeau est encore pire.
Ceci est le casque d'Hadès, »
dit la muse. Elle me coiffe de la cagoule, mais la replie autour de mon cou comme une écharpe.
Il a été façonné par Hadès en personne, et c'est la seule chose en cet univers qui peut te dissimuler au regard des dieux.
Je bats des cils comme un crétin. Je me rappelle vaguement certaines notes érudites ayant trait à ce casque de mort, et me souviens que le nom Hadès, Aïdès en grec, signifie, en théorie, l'invisible. Mais pour autant que je le sache, Homère ne parle qu'une seule fois de ce casque lorsqu'Athénée le coiffe pour ne pas être vu d'Arès, le dieu de la guerre.
Au nom de Dieu et de tous les dieux de l'Olympe, pourquoi me fait-on ce cadeau empoisonné? Quel sort me réserve-t-on?
J'ai les jambes qui flageolent. Mais le casque, ordonne la muse. J'empoigne le cuir épais, non sans maladresse. Il est truffé de machinerie, puces, circuits, nanos. Le casque est équipé d'ouvertures pour les yeux, d'une grille protectrice pour la bouche, et une fois que je l'ai passé, l'air ondoie étrangement autour de nous, bien que ma vision ne soit nullement affectée.
« Incroyable !»
dit la muse. Elle est tournée vers moi, mais ne me voit point. Je comprends que j'ai réalisé le rêve de tout adolescent qui se respecte, devenir invisible. Toutefois, je ne comprends pas comment un simple casque peut faire disparaître mon corps tout entier. Ma première impulsion est de foutre le camp, de disparaître aux yeux de la muse et des dieux. Je la refoule, il y a sûrement un piège. Nul dieu, nulle déesse, y compris ma muse, ne peut accorder un pouvoir absolu à un misérable scoliaste.
Cet appareil te protégera des yeux de tous les dieux, hormis de ceux de ma déesse qui m'a autorisé à te le donner.
Déclare la muse en fixant l'espace situé à droite de mon visage.
Mais cette déesse a le pouvoir de te pister et de te repérer n'importe où, Oakenberry. Et bien que le médaillon occulte ton odeur, le bruit de ton souffle et même celui de ton cœur, les dieux disposent de sens qui te sont incompréhensibles.
Reste près de moi durant les minutes qui vont suivre. Avance à pas de loup. Ne dis pas un mot.
Respire aussi doucement, aussi régulièrement que possible.
Si tu es détecté, ni moi, ni ta divine patronne ne pourront te protéger de la colère de Zeus.
Comment respirer doucement et régulièrement quand on est terrifié?
Mais j'acquiesce, oubliant que la muse ne me voit plus. Elle reste muette, me fixant sans me voir comme si elle se fiait à ses sens divins, et je finis par coasser.
Oui, déesse.
Pose ta main sur mon bras, ordonne-t-elle sèchement. Reste avec moi. Garde le contact, sinon
tu seras détruit.
Je lui pose une main sur le bras, telle une timide débutante qu'on va escorter à son premier bal.
Sa peau est glaciale.
J'ai jadis visité le bâtiment d'assemblage des véhicules spatiaux du Centre Spatial Kennedy à Cap Canaveral. Selon le guide, il arrivait que des nuages se forment à l'extrémité du plafond, dont la hauteur atteignait 161 mètres. Si l'on transportait ce bâtiment dans la salle où nous nous trouvons en ce moment, il serait aussi discret qu'un jouet d'enfant égaré dans une cathédrale. Quand on évoque les dieux, on pense surtout aux plus connus, aux chefs de la bande, Zeus, Érée, Apollon et quelques autres. Mais cette salle abrite des centaines de dieux et elle a l'air presque vide. Des kilomètres au-dessus de nous, un dôme doré, les Grecs ignoraient le dôme de sorte que celui-ci offre un vif contraste avec l'architecture classique des autres édifices d'Olympos, permet, grâce à son acoustique, d'entendre toutes les conversations où que l'on se trouve dans ce hall aux dimensions cosmiques. Le sol semble fait d'or martelé. Les dieux sont accoudés à des balustrades de marbre et dominent la scène depuis des balcons incurvés. Dans les murs sont creusées des multitudes de niches dont chacune abrite une sculpture de marbre. Ces statues représentent les dieux eux-mêmes. On voit apparaître ça et là des hologrammes des Achéens et des Troyens, le plus souvent des images grandeur nature, en couleur et en trois dimensions, d'hommes et de femmes occupés à discuter, à parler, à faire l'amour ou à dormir. Près du centre de la salle, le sol se creuse pour former une dépression où on pourrait caser plusieurs piscines olympiques, et dans cet espace flottent et nagent d'autres images en provenance d'Ilium. Vues aériennes, gros plans, panoramiques, montage serré. Les dialogues sont aussi nets que si Grecs et Troyens se trouvaient parmi nous. Tout autour de ce pool visuel, assis sur des trônes de pierre, affalés sur des sofas rembourrés ou debout, vêtus de leurs toges de dessins animés, se tiennent les dieux. Les plus importants, les chefs de la bande, ceux qui sont en principe même connus des écoliers. Les dieux mineurs s'écartent sur le passage de la muse et je presse le pas pour ne pas rester à la traîne, ma main invisible tremblant sur son bras bronzé, veillant à ce que mes sandales ne grincent pas, à ce que mon nez ne coule pas. Aucune des déités ne paraît remarquer ma présence. Si l'une d'elles le fait, je pense que j'en serai vite informé. La muse fait halte à quelques mètres de Pallas Athénée, et je me tiens si près d'elle que je me sens dans la peau d'un gosse de 3 ans accroché à la jupe de sa mère. Une vive dispute suit son cours, alors même qu'Hébé, une déesse mineure, se déplace parmi les dieux, leur versant du nectar dans des gobelets en or. Zeus est assis sur son trône, et il suffit d'un regard pour comprendre que c'est lui, le roi, l'assembleur des nuées, le dieu des dieux. Ce Zeus-là n'a rien à voir avec un personnage de dessin animé. C'est un géant, terriblement réel, dont la présence barbue, ointe et d'une noblesse palpable me glace le sang dans les veines.
Comment pouvons-nous contrôler le déroulement de cette guerre ?
Demande-t-il au dieu assemblé tout en poignardant du regard son épouse, errée.
Et le destin d'Hélène ? Oui, comment, si des déesses comme Héré d'Argos et Athédée, protectrices de ses soldats, ne cessent d'intervenir ? Par exemple, en arrêtant la main d'Achille alors qu'elle allait faire couler le sang du fils d'Atrée.
Il dirige son œil ombrageux sur une déesse allongée sur des coussins pourpres.
Et toi, Aphrodite, la déesse au sourire, qui veille sans arrêt sur ce bellâtre de Paris, écartant de lui esprit maléfique et javeline bien placée. Comment la volonté des dieux, la volonté de Zeus, pourrait-elle être claire si les déesses persistent à protéger leurs favoris aux dépens du destin? En dépit de toutes tes machinations, Héré, Ménélas peut encore reprendre Hélène. À moins, qui sait, qu'Ilium ne l'emporte. Il n'appartient pas à quelque dieu femelle de décider de telles choses.
Héré croise ses minces bras. Homère parle si souvent à son propos de déesse au bras blanc que je m'attends à moitié à la découvrir plus pâle que ses congénères, mais bien qu'elle ait un teint de lait, on ne peut pas dire qu'elle soit moins allée qu'Aphrodite, ni que sa fille Hébé, ni que n'importe laquelle des déesses qui me sont visibles en ce moment. Je note toutefois qu'Athénée, elle, est franchement bronzée. Je sais en outre que ces épithètes ont un usage fonctionnel dans la poésie homérique. Achille est dit au pied agile, Apollon à l'arc d'argent, et le nom d'Agamemnon est généralement suivi de la mention « protecteur de son peuple ». Les Achéens sont chevelus, leurs nefs noires ou creuses, etc. Ces épithètes sont là pour satisfaire les exigences de l'hexamètre plutôt que celles de la description, et elles permettaient à Laède de respecter la métrique au moyen de phrases toutes faites. J'ai toujours soupçonné certaines d'entre elles, la fameuse Aurore aux doigts de rose, par exemple, de lui avoir en outre servi à gagner du temps en attendant de se rappeler les vers suivants, à moins qu'il ne les ait carrément improvisés. Mais j'ai les yeux fixés sur les bras d'Héré alors qu'elle s'adresse à son époux.
« Terrible fils de Cronos !»
dit-elle.
« Qu'est-ce que tu me racontes? Comment oses-tu anéantir ainsi tous mes efforts? Sais-tu comme j'ai sué mon immortelle sueur pour assembler l'armée des Achéens, flattant l'ego de ces héroïques mâles afin qu'ils ne s'entretuent point avant d'avoir tué des Troyens et souffrant, car j'ai souffert, ô Zeus, afin de faire souffrir le roi Priam et les fils de Priam et la cité de Priam ?»
Zeus plisse le front et se penche sur son trône à l'aspect inconfortable et serre et desserre ses gigantesques poings blancs. Héré décroise les bras et les lève au ciel exaspéré.
« Agis à ta guise, c'est ce que tu fais toujours, mais nous, les autres dieux, ne t'approuvons pas forcément. »
Zeus se lève. Si les autres dieux mesurent plus de 2 mètres, il en fait, lui, plus de 3. Son front n'est pas tant barré que creusé de rides, et je n'abuse pas des métaphores en disant qu'il tonne.
« Héré, ma chère, mon adorée, mon insatiable Héré. En quoi donc Priam et les fils de Priam te font-ils tant de mal que tu t'obstines avec fureur à détruire la belle cité d'Ilium ? »
Héré reste silencieuse, les mains sur les hanches. Cela ne fait qu'attiser le royal courroux de Zeus.
« Déesse, c'est la faim dévorante qui t'anime et non point la colère. Franchir les portes, les hauts murs d'Ilium et dévorer vivant les Troyens. Il ne t'en faut pas moins pour être satisfaite. »
Vu son expression, Héré ne réfute pas cette accusation.
« Bien. Bien. »
donne Zeus, qui semble néanmoins bafouillé comme tous les maris au fil des siècles.
« Fais comme il te plaît. Mais j'ai encore quelque chose à te dire. et mets-le-toi bien en tête. Quand j'éprouverai à mon tour l'envie de détruire une ville et ses habitants, une ville que tu aimes, comme j'aime Ilium, ne t'avise pas alors de retenir ma colère.
La déesse avance vivement de 3 pas, n'évoquant un prédateur fondant sur sa proie ou un grand maître des échecs profitant sur le champ d'une ouverture.
Oui, 3 villes, à moi, qui me sont chères entre toutes. Argos, Sparte et la vaste Mycène, dont les rues sont aussi larges, aussi royales que celles d'Ilium la maudite. Détruis-les, le jour où ton cœur les aura prises en haine, ô Seigneur. Je ne m'opposerai pas à toi. Je ne te les refuserai pas. Cela ne me servirait à rien, puisque tu es plus fort que moi. Mais rappelle-toi ceci, ô Zeus. Quoique je sois ton épouse, je suis moi aussi issu de Cronos et mérite ton respect.
Jamais je n'ai prétendu le contraire.
Marmonne Zeus en se rasseyant.
Alors cédons-nous ici l'un à l'autre.
Déclare Erée d'une voix qui s'est nettement adoucie.
Toi à moi comme moi à toi. Les autres dieux suivront. Agis donc promptement, mon époux. Achille a renoncé au combat, mais une trêve a interrompu l'atroce mêlée entre Achéens et Troyens. Veille à ce que les Troyens la violent, ainsi que leurs paroles, en portant un mauvais coup aux superbes Achéens.
Zeus fulmine, maugré, gigote sur son trône, mais se tourne vers l'attentive Athénée.
Vite, va donc dans leur ligne trouver Troyens et Achéens. Fais en sorte que les Troyens soient les premiers à violer la trêve en portant un mauvais coup aux superbes Achéens.
Et qu'ils piétinent les Argiens dans leur triomphe.
Souffle Erée.
Et qu'ils piétinent les Argiens dans leur triomphe.
Répète Zeus d'une voix lasse. Athénée disparaît dans un éclair têtu. Zeus et Erée quittent la salle et les dieux commencent à se disperser en chuchotant. D'un subtil claquement de doigts, la muse m'ordonne de la suivre et je franchis le seuil derrière elle.
« Auchenberry, »
dit la déesse de l'amour. Elle est allongée sur une couche douillette et la pesanteur, si légère soit-elle, souligne les masses voluptueuses de ses appâts laiteux. La muse m'a conduit dans une petite chambre du palais des cieux, une petite chambre chichement éclairée par un brasero à l'éclat tamisé et par ce qui ressemble furieusement à un écran d'ordinateur. Dans un murmure, elle m'a ordonné d'ôter le casque d'Hadès et, quoique soulagé de me défaire de cette cagoule en cuir, j'étais terrifié à l'idée d'être à nouveau visible. Puis, Aphrodite est entrée, s'est allongée sur son divan et a dit
« Ce sera tout, Mélété. « Attends que je t'appelle. »
La muse s'est éclipsée par une porte dérobée.
« Mélété, ai-je songé. Ce n'était donc pas une des 9 muses, mais un être venant d'un autre âge, d'un temps où les muses n'étaient que 3. Mélété, associée à la pratique, Mnémée à la mémoire, et Iodée au... »«
Auchenberry, je t'ai vu dans la grande assemblée des dieux. »
déclare Aphrodite, m'arrachant en un clin d'œil à mes songeries de scoliaste.
Et si je t'avais désigné au Seigneur Zeus, tu ne serais plus à présent qu'un petit tas de cendres, voire pis encore. Même ton médaillon têtu ne t'aurait servi à rien, car j'ai aussi le pouvoir de suivre ton sillage phasique dans l'espace-temps. Sais-tu pourquoi tu es ici?
C'est Aphrodite, ma patronne. C'est elle qui a ordonné à la muse de me donner ses gadgets. Que suis-je censé faire? Me jeter à terre et me prosterner devant cette divinité? Comment m'adresser à elle? Durant les 9 ans, 2 mois et 18 jours que j'ai passé ici, pas une fois un dieu n'a daigné prêter attention à mon humble personne, la muse exceptée. Je décide de m'incliner, de détourner mes yeux de sa beauté, du spectacle de ses mamelons roses visibles sous la soie vaporeuse, du doux renflement de son ventre qui projette des ombres dans le triangle obscur où naissent ses cuisses. Non, déesse, dis-je, mais j'ai déjà oublié la question.
Sais-tu pourquoi tu as été sélectionné pour être scoliaste, Hockenberry? Pourquoi ton ADN a été préservé de la nanolyse? Pourquoi tes écrits sur la guerre ont été incorporés au simplex avant que tu sois jugé digne d'être réintégré?
Non, déesse. Mon ADN est préservé de la nanolyse.
Sais-tu ce qu'est un simplex, ô ombre de mortel?
Le virus de l'herpès?
Non, déesse.
Le simplex est un objet mathématique de type géométrique, un exercice de logistique, un triangle ou un trapézoïde replié sur lui-même.
Déclare Aphrodite.
Combiné en outre avec des dimensions multiples et des algorithmes définissant de nouvelles aires notionnelles, ce qui entraîne la création et le tri de régions concevables dans l'espace N, les plans d'exclusion devenant alors des contours inévitables. Comprends-tu, à présent, Hockenberry? Comprends-tu en quoi cela s'applique à l'espace quantique, au temps, à la guerre en cours, à ton propre destin?
Non, déesse. Ma voix devient tremblante, impossible de faire autrement. J'entends un froissement de soi et je lève les yeux le temps de voir la plus belle femme de la création changer la position de ses membres fuselés.
Peu importe,
dit-elle.
Il y a plusieurs millénaires de cela, tu as écrit un livre. Toi ou le mortel qui fut ton templet, te rappelles-tu son contenu?
Non, déesse.
Si tu répètes encore une fois ces mots, Hockenberry, je t'éventre de la gorge à laine et je transforme tes tripes en jarretière. Et ça, tu le comprends?
Il est extrêmement difficile de parler la bouche sèche.
Oui, déesse.
Réussis-je à zézayer?
Ton livre faisait 935 pages et son sujet se réduisait à un seul mot. Ménine. T'en souviens-tu maintenant?
Non, j'ai bien peur de l'avoir oublié, déesse Aphrodite, mais je ne doute pas que vous ayez raison.
Je lève les yeux une fraction de seconde, constatant qu'elle sourit, le menton calé sur sa main gauche, l'index collé à sa joue, pointé vers son sourcil parfait. Ses yeux ont la couleur d'un vieux cognac.
« La rage, »
murmure-t-elle.
« Ménine Aïdé Théa. Sais-tu qui va gagner cette guerre, Hockenberry ?»
Là, j'ai intérêt à réfléchir très vite.
Je serais un piètre scoliaste si j'ignorais comment s'achève l'Iliade. Encore que la dernière scène décrive les funérailles de Patrocle, l'ami d'Achille et non la destruction de Troie, et que seul l'Odyssée fait mention d'un cheval géant. Mais supposons que je prétende savoir comment se conclura cette guerre, alors que Zeus vient tout juste de réaffirmer son édit selon lequel les dieux ne doivent pas être informés du futur tel que l'a prédit Homère. Si les dieux eux-mêmes ne savent pas ce qui va se passer ensuite, en le leur disant, je me placerai au-dessus des dieux, notamment du destin. Et ces dieux-là n'ont pas pour habitude de récompenser l'hubris. En outre, Zeus, le seul à connaître l'intégralité de l'Iliade, a interdit aux dieux et aux scoliastes d'évoquer d'autres événements que ceux qui se sont déjà produits. Contrarier Zeus n'est pas une technique de survie quand on fréquente Olympos. D'un autre côté, il semble que je sois préservé de la nanolyse. Mais je ne doute pas de la parole de la déesse de l'amour quand elle se dit prête à transformer mes tripes en jarretière.
Quelle était la question, déesse?
Demandai-je piteusement.
Tu sais comment s'achève l'Iliade. Mais je défierais la volonté de Zeus en te demandant des précisions,
dit Aphrodite dont le sourire s'efface pour faire place à une moue.
Je peux cependant te demander dans quelle mesure le poème prédit cette réalité, n'est-ce pas? À ton avis, scoliaste Hockenberry, qui règne sur l'univers? Zeus ou le destin?
Oh merde! Quelle que soit la réponse que je donne, je vais finir étripé. Cette femme superbe, cette déesse, va hériter de jarretières toutes poisseuses.
j'ai cru comprendre, déesse, que bien que l'univers se plie à la volonté de Zeus et doive obéir aux caprices de cette force divine qu'on appelle le destin, le chaos a toutefois son mot à dire dans la vie des hommes comme des dieux. Aphrodite émet un petit bruit amusé. Tout chez elle est doux, caressant, tentateur.
Nous n'allons pas attendre que le chaos décide de cette partie,
déclare-t-elle sur un ton des plus sérieux.
Tu as vu Achille se retirer du conflit aujourd'hui?
Oui, déesse.
Tu sais que le tueur d'hommes a adressé des prières à Thétis, afin que ses amis achéens soient punis de l'avoir ainsi déshonoré?
Je n'ai pas été témoin de cette scène, déesse, mais je sais qu'elle s'inscrit dans le cours de l'épopée. Je ne prends aucun risque en disant cela. Cet événement appartient déjà au passé. En outre, la Néréide Thétis est la mère d'Achille, et tous les habitants d'Olympos savent qu'il a imploré d'intervenir.
Certes,
fait Aphrodite.
Cette salope aux talons ronds et aux seins mouillés s'est déjà pointée dans la grande salle, se jetant aux pieds de Zeus dès que le vieux Schnock est revenu de son orgie chez les Éthiopiens. Elle l'a supplié au nom d'Achille d'accorder aux Troyens victoire sur victoire, et ce vieux crétin a accepté, s'attirant la fureur d'Érée, championne en chef des Argiens. D'où la scène de ménage à laquelle tu viens d'assister.
Je me tiens immobile, les bras ballants, les paumes vers l'avant, la tête légèrement inclinée, guettant Aphrodite comme si elle était un cobra prêt à frapper, mais sachant qu'elle est infiniment plus vive, infiniment plus meurtrière qu'un vulgaire cobra.
Sais-tu pourquoi tu as survécu plus longtemps que tout autre scoliaste?
Me demande-t-elle sèchement. Incapable de répondre sans me condamner, je secoue tout doucement la tête.
Si tu es toujours vivant, c'est parce que j'ai prédit que tu pourrais me rendre un service.
Une amère sueur me pique les yeux. Je sens de grosses gouttes couler sur mes joues et sur ma gorge. La tâche d'un scoliaste, la tâche que j'accomplis depuis 9 ans, 2 mois et 18 jours, est d'observer la guerre sur la plaine d'Ilium sans jamais intervenir, sans jamais commettre un acte qui soit susceptible de modifier le cours du conflit ou le comportement de ses héros, dans quelque sens que ce soit.
M'as-tu entendu, Auchenberry?
Oui, déesse.
Souhaites-tu savoir de quel service il s'agit, scoliaste?
Oui, déesse. Aphrodite se lève de son divan et j'incline la tête au maximum. Mais j'entends le froissement de sa robe de soie, ainsi que le doux frottement de ses cuisses, tandis qu'elle s'approche de moi. Je sens son parfum et son odeur de femme lorsqu'elle se tient près de moi. J'avais oublié à quel point une déesse peut être grande. Mais notre différence de taille me frappe à nouveau lorsqu'elle se dresse au-dessus de moi, ses seins à quelques centimètres de mon visage.
L'espace d'un instant, je lutte contre l'impulsion d'enfouir ma tête dans la vallée parfumée qui sépare ses seins. Et tout en sachant que cet acte serait le dernier que j'accomplirais avant de connaître une mort atroce, je me demande si le jeu n'en vaudrait pas la chandelle.
Aphrodite pose une main sur mon épaule tétanisée, effleure le cuir grossièrement brodé du casque d'Hadès, puis pose sur ma joue l'extrémité de ses doigts. En dépit de ma terreur, je sens mon sexe se durcir, se dresser tout frémissant. La voix de la déesse se fait entendre, un murmure suave, sensuel, légèrement amusé, et je suis sûr qu'elle a conscience de mon état, qu'elle le prend comme l'hommage qui lui est dû. Elle baisse la tête pour se pencher sur moi, si proche que je sens la chaleur de sa joue contre la mienne, tandis qu'elle chuchote à mon oreille 2 ordres tout simples.
« Tu vas espionner les autres dieux pour mon compte. »
Puis, à peine audible tant mon cœur cogne dans ma poitrine,
« Et le moment venu, tu vas tuer Athénée. »